Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Anne Lafie, chef de chœur. Anne Lafie travaille depuis 2012 en tant que chef de chœur et chef d'orchestre pour la compagnie aérienne Air France. Et à ce titre, elle est amenée à diriger les orchestres engagés par le chœur. Depuis le début de sa carrière de chef de chœur, elle a créé plusieurs pièces contemporaines, notamment celle du compositeur Dmitri Tchesnokov. Elle a aussi collaboré avec Walter Thompson, compositeur connu pour avoir inventé le sound painting, langage des signes universel et multidisciplinaire, permettant la composition en temps réel. Elle a créé une pièce pour Antonio Placer, troubadour galicien. Puis, plus récemment, en 2022, elle a créé la pièce « Et puis le monde bleu » du compositeur Fabrice Boulanger et le librettiste Jean-Marc Poggiali. Par ailleurs, Anne Lafie enseigne également la direction de chœur au Conservatoire de Grenoble et elle donne des masterclass de direction de chœur. C'est dans ce contexte que nous allons la retrouver aujourd'hui au sein de l'Académie des Arts, opus 74 à Flaine, où elle donne depuis de nombreuses années un stage de direction de chœur et où elle dirige également à la même occasion un chœur qui donne, après chaque masterclass, un concert à l'Auditorium de Flaine. Après s'être plongé quelques minutes dans le stage de chef d'orchestre, nous allons ensuite nous entretenir avec Anne Lafie, puis nous allons écouter trois créations que le chœur a proposées cette année à Flaine. Nous allons écouter d'abord College Choir, une pièce contemporaine du compositeur suédois Johnson. Puis nous allons écouter un extrait de Un soir de neige, cantate de chambre pour chœur mixte, par Francis Poulenc, créé en 1944 sur un texte de Paul Éluard. Puis nous allons finir avec un extrait du morceau Cristallen Denfina, un chant traditionnel islandais de Vikander.
3, 4, 1, passif, pam, pam, pam. Super. Daniel, ton passif, il faut vraiment qu'il soit sur le temps intérieur, donc que tes mains viennent vers l'intérieur. Vraiment. Pam, pam. Encore une fois, celui-là. 3. 4, 1, passif, pam, 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 super, beaucoup mieux. Maintenant, on passe au départ d'avant. Donc là, on avait le demi-soupir croche sur le troisième temps. Maintenant, on met demi-soupir croche sur le deuxième temps. C'est-à-dire qu'on va avoir le passif sur...
Le premier qui ressemble à une levée, du coup.
Le premier qui ressemble à une levée et ensuite actif sur 2. Ouais. C'est bon, Hubert?
Oui.
Ouais. Et simplement, on part de notre plan. Donc, passif sur 1, mais ascendant... Pam, 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 voilà. Et faites bien votre deuxième à l'intérieur, sinon vous allez avoir un doute dans votre schéma. On est bien dans notre mesure à 4. Hein. Encore une fois, 3, 4, passif, pam, 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 voilà. Et sur votre passif, ayez la sensation que vous tirez un élastique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite résistance qui se fait, vous tendez, un peu comme le tir à l'arc, pour ceux qui regardent les JO, c'est vous tendez et schlac, ça part.
Bonjour Anne Lafie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ici à Flaine. On est en plein stage, plein masterclass de Opus 74. Vous êtes chef de chœur et j'ai eu l'occasion de vous voir travailler hier matin. C'était passionnant. J'ai vu quatre jeunes chefs de chœur tenter d'imiter vos gestes. Ça n'avait rien de facile. Ça donnait un aperçu de la complexité de la tâche. Quand on est amateur, on ne s'imagine pas que l'instrument est finalement le corps. Et ça m'a impressionné de voir les coulisses de ce métier. Et en première question, j'aimerais vous poser comment vous êtes venue à la direction de chœur.
Alors je suis venue à la direction de chœur, j'étais chanteuse. Moi j'ai eu la chance de rentrer dans un chœur d'enfants de très bon niveau à l'âge de 9-10 ans en CM2. Et j'ai continué à suivre ce chœur d'enfants jusqu'à la terminale. Et en fait, arrivé en terminale, pour moi, c'était assez évident que je voulais faire de la musique plus tard. Après, dans quel domaine exactement, je ne savais pas exactement. Donc au départ, je me destinais peut-être plutôt au chant. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que plus que chanter, j'aimais bien le contact avec le groupe, que l'aspect social de ce métier-là me plaisait beaucoup. L'aspect aussi plus complet en fait, de la musique, plutôt que de chanter simplement une simple ligne, de pouvoir rassembler les différents pupitres ensemble, de les conduire sur un projet complet me passionnait. Donc de ce fait-là, j'ai mené une espèce de double cursus, à la fois en chant, puis en direction de chœur, et après en parallèle entre direction de chœur et direction d'orchestre. Donc ça a été vraiment à l'issue de ma sortie de l'école maîtrisienne à Angers où je me suis dit, bah voilà, je suis partie en musicologie et au conservatoire et après ça s'est dessiné de façon assez évidente en fait. D'un certain côté, on a pour moi le plus bel instrument, c'est-à-dire qu'on a le seul instrument qui est humain et qui donc de ce fait-là peut répondre de lui-même, peut avoir des interactions par lui-même et je trouve que c'est ce qui est presque le plus passionnant de ce métier-là. C'est-à-dire qu'on construit des choses mais on partage des choses ensemble et c'est un moyen de faire vivre la musique réellement par le biais d'autres personnalités, d'autres gens, d'un groupe plus ou moins nombreux. Donc c'est une chance, je trouve, d'avoir le seul instrument humain. Alors évidemment, après, ça demande des capacités d'écoute, mais tous les métiers de la musique demandent des capacités d'écoute.
C'était assez évident. Lorsqu'ensuite, après ce cours auquel j'ai pu assister, on a vu la chorale arriver. Et là, il y avait beaucoup de monde sur scène, au départ assez immobile. Et d'un coup, tout ce groupe commençait à pulser ensemble.
Tout à fait. En fait, les débuts de répétition, c'est ce que j'enseigne aux élèves de direction, sont très importants pour nous, parce qu'effectivement, c'est la mise en route de l'instrument. En soi, alors on parle traditionnellement d'échauffement vocal, cet échauffement en lui-même n'a pas grand intérêt, puisqu'on pourrait très bien s'échauffer en chantant une pièce facile, voilà, ou même des chanteurs professionnels n'ont pas forcément besoin de ce moment de chauffe, les cordes vocales n'ont pas forcément ce besoin-là. Par contre, pour nous, il est essentiel dans le fait de remettre les gens ensemble, de reconstruire l'instrument, de lui rappeler ses principes de fonctionnement, de l'écoute entre les pupitres, de l'écoute entre les voix elles-mêmes, et aussi de la dynamique qu'on va vouloir insuffler à la répétition derrière. C'est-à-dire que souvent, ce que je dis, c'est que le moment d'échauffement pour le chef est le moyen de prise d'atmosphère un peu de ce groupe qu'il a en face de lui. Et c'est le moment où on sonde un peu, où on prend conscience que soit l'instrument est fatigué, soit au contraire, il est très dynamique, presque trop, parfois dispersé, qu'il a besoin d'être centré. Et pour nous, une répétition qui commence bien est une répétition qui finit bien. Et une répétition commencée un peu de façon brouillonne peut être, entre guillemets, plus ardue ensuite à conduire, en tout cas.
Alors ce groupe qui est constitué cette semaine, c'était le même que la semaine dernière ? Est-ce que c'est des gens qui...
Absolument pas.
Ah oui.
C'est-à-dire on a quelques personnes qui sont en commun. Globalement, l'effectif est sensiblement le même. Je crois qu'on était à 35 ou presque 40 chanteurs la semaine dernière et cette semaine, on est entre 40 et 45. Donc à une dizaine de personnes près, on a le même effectif. Cependant, le groupe n'est absolument pas de la même personnalité. La semaine dernière, on avait... De par les œuvres, j'avais demandé des gens qui étaient expérimentés vocalement. Donc on avait des chanteurs qui étaient peut-être un tout petit peu plus aguerris et qui étaient vraiment dans une démarche de construction profonde de la musique. Ils savaient qu'ils allaient aborder un répertoire qui allait être un peu plus ardu et peut-être un peu plus fin. Cette semaine, on est sur un groupe qui est très heureux de se retrouver. Il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de gens qui se connaissent d'avance, soit parce qu'ils sont habitués à venir ici, soit parce qu'ils chantent ensemble par ailleurs. Et de ce fait-là, l'atmosphère n'est pas du tout la même. On a un groupe aussi cette semaine qui est un peu plus âgé. La semaine dernière, il y avait plus de jeunes issus de chœurs universitaires, notamment de Grenoble et de Strasbourg. Voilà. En fonction des années, on ne peut pas dire que les choses se reproduisent de façon égale. Chaque chœur est unique, en fait, à chaque fois qu'on fait une semaine ici.
Donc, pour certains, ils se retrouvent ici pour la première fois. Ils ne se connaissent pas entre eux.
Tout à fait. Pour certains... C'est la toute première fois. On peut même avoir certains chanteurs, il y en avait notamment un la semaine dernière, dont c'était la première participation à un chœur et donc le premier concert à l'issue de la semaine. Donc ça peut arriver, que ce soit des gens qui viennent découvrir le chant choral avec nous. Ça peut être aussi des gens qui, de leur propre initiative, viennent rejoindre ce chœur sans connaître personne. Et il y a aussi quelques-uns qui sont heureux de se retrouver. Alors je sais que moi j'ai des chanteurs de Grenoble qui viennent. J'en ai des qui me suivent depuis très longtemps, parce que je faisais autrefois un stage à la Seyne-sur-Mer. Donc j'ai quelques Toulonnais qui viennent me rejoindre, sur les deux semaines d'ailleurs, ou Marseillais. Des gens de Paris qui viennent soit parce qu'ils me connaissent, soit parce qu'ils chantent par ailleurs et qu'ils ont envie de chanter. été cette semaine en montagne. Voilà, les raisons de venue sont très diverses en fait.
Et le défi, c'est de faire une semaine, une prestation scénique qui se tient.
Tout à fait. On a le grand honneur accordé par Bertrand Giraud, le directeur de l'Académie, d'avoir sa confiance pour le fait de se produire au sein du Festival des professeurs, le vendredi soir en première partie de concert. Donc on est les seuls, ce que je répète souvent au cœur, c'est qu'ils sont les seuls amateurs à avoir accès à cette scène-là, dans cette programmation-là. Donc on se doit d'une représentation de qualité. C'est ce qui fait que parfois je me permets de leur mettre un tout petit peu la pression dans la semaine pour que le concert soit réellement de qualité. Alors évidemment, on fait avec les chanteurs qui sont là, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander un niveau de professionnel. On est bien conscient qu'il s'agit d'un cœur d'amateur, mais un cœur d'amateur avec lequel on est exigeant. Et c'est pour ça que parfois, bah par exemple, cette semaine, on présente tout le programme qui était prévu en amont, mais il se pourrait qu'on dise bah, telle pièce, tout compte fait, ne tiendra pas suffisamment, donc on ne la fera pas. Voilà. Ils savent que normalement, ils viennent pour en gros une demi-heure de musique sur scène le vendredi soir. Malgré tout, il se peut qu'il y en ait un peu moins.
Donc là, vous portez deux casquettes. D'une part, vous donnez cours à des jeunes...
Des jeunes chefs,
oui. Et puis, d'autre part, il y a la chorale qui vous attend et qu'il faut diriger.
Tout à fait. C'est une organisation assez fine parce qu'il faut réussir à partager le temps. Alors, évidemment, les cours de direction de chœur, on n'a pas le chœur. On dirige ce qu'on appelle à la muette. C'est-à-dire que le geste est dans sa plus pure existence. Et l'idée est normalement de diriger l'image sonore qu'on a intérieurement sans être dérouté par l'image sonore que va réellement donner le cœur. Parce que, évidemment, le bras, l'oreille sont attirés par ce qu'on entend quand il y a le cœur. Donc l'idée vraiment du cours à la meute, c'est de pouvoir travailler sur le geste pur au maximum, d'où les gestes de technique que vous avez vus. Alors, je reviens juste un peu là-dessus. Ces gestes de technique, en fait, on dit souvent que la gamme de gestes du chef est presque la plus facile des instrumentistes. Alors même si ça paraît, on paraît manier beaucoup de choses malgré tout à côté de doigté d'un clarinettiste ou de pianistes qui utilisent leurs deux mains plus les pédales et autres, c'est vrai que nous, la gamme de gestes est assez rapidement apprise. Malgré tout, après, c'est beaucoup, beaucoup d'expérience et beaucoup d'habitude de manier ces gestes-là, de les mettre en route et de les lier à ce qu'on entend. Mmh. Et effectivement, ma deuxième casquette, c'est chef de chœur. Donc pendant les répétitions, j'ai à la fois la mission de monter le répertoire pour le vendredi au mieux et d'être là présente en tant que chef de chœur parce que je sais qu'il y a des chanteurs qui viennent dans l'idée de travailler aussi avec moi parce qu'ils aiment bien, parce qu'on s'entend bien et parce que pour eux c'est un moment de plaisir aussi, mais aussi de laisser la place aux jeunes chefs, aux pupitres, pour qu'ils aient quand même quelques temps pour se faire la main, pour pouvoir diriger, pour pouvoir écouter, pour essayer de faire des retours au cœur, parce que c'est pas évident, quand on commence à bouger les bras face à un cœur, on a du mal à entendre, et quand on écoute trop, on a du mal à bouger les bras. Donc voilà, faut réussir à mettre tout ensemble, et donc de cette là, on divise le temps de travail, et on se partage le travail avec les chefs. Et mon objectif vraiment pour moi, c'est de leur montrer, depuis le dimanche matin quand on commence jusqu'au vendredi soir quand le concert se clôt, comment est-ce qu'on monte un projet. Alors c'est un peu une version accélérée. Ils ne prennent pas part évidemment à la recherche de répertoire parce qu'on n'aurait pas, c'est pas possible dans l'infrastructure qu'on a, mais par contre ils prennent part à toute la suite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare une répétition, comment on l'amène, comment est-ce qu'on décide de changer notre programme de répétition par rapport à ce qu'on a entendu, comment est-ce qu'on agence le programme de concert, quels choix on fait. Et ils ont aussi leur propre petit moment de restitution qui va être vendredi midi à midi et quart, où chacun va diriger un petit quart d'heure de musique pour avoir chacun son mini concert. Donc l'idée est vraiment de diviser le temps entre tout ça. Ce qui est passionnant de ce métier, souvent les jeunes chefs quand ils viennent et qu'ils s'inscrivent en direction de chœur, moi je vois leur préparation principale, c'est leur geste. Ils arrivent persuadés que 90% de notre travail se situe dans les bras. Et en fait, globalement, la prise de conscience au bout d'une semaine, c'est malheureux à dire presque, mais c'est que tant que l'énergie est là, le sens des bras n'est pas forcément essentiel. Par contre, là où on doit être hyper attentif, c'est à l'écoute du groupe, et pas seulement à l'écoute musicale du groupe, c'est à l'écoute de l'atmosphère du groupe, des tensions qu'il peut y avoir, des tensions de placement, des tensions vocales. On n'est pas toujours bien à côté de son voisin. Il y en a qui font des fausses notes, il y en a qui ont envie de les corriger. Il y a des gens qui sont très expérimentés, il y a des gens très débutants. Et le gros de notre métier est quand même très social, en fait. Alors, je parle vraiment du métier du chef de chœur amateur. Au sein de chœurs professionnels, la raison d'être est un peu différente et on travaillera différemment. Mais le temps de travail sera différent aussi. C'est-à-dire que nous, avec les chœurs amateurs, on travaille sur des durées très longues en général. Là, c'est un condensé d'une semaine, c'est très intense. Du coup. On est le centre de l'attention et on se doit, vis-à-vis des chanteurs, de les respecter. C'est-à-dire qu'un violon sur lequel on joue faux ne s'en rend pas compte lui-même. Par contre, un chœur avec lequel on travaille mal s'en rend compte. Et pour moi, c'est vraiment la philosophie de notre métier, c'est de vraiment prendre en compte cet individu qui est en face, qu'on mêle évidemment au sein d'un groupe, mais il ne faut jamais oublier qu'un groupe est composé des individus. Et moi, je sais que je suis toujours très à l'écoute de ce qui peut se passer au sein du chœur. Et comme dans tout groupe, il y a parfois des tensions. Mais voilà, moi, je suis chef de chœur à Air France, à la compagnie aérienne. Et il y a eu un moment dans mon cursus de chef en formation où je me suis posé des questions. Et en fait, je suis partie faire la formation justement de navigant aérien. Et j'avoue que j'en suis assez fière de cette formation-là et j'y suis très reconnaissante parce que j'ai appris dans cette formation-là comment est-ce qu'on encadrait un groupe. Et je fais souvent le parallèle entre le chœur et l'avion. C'est-à-dire que dans le chœur, on a malgré tout comme des passagers. On dit que dans un avion, les gens retournent un peu en enfance puisqu'ils sont en groupe, ils sont dans l'anonymat. Et malgré tout, ils ont envie qu'on s'occupe d'eux individuellement. Dans l'avion, c'est la même chose. Dans le cœur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir un regard individuel tout en ayant un regard de groupe. Et qu'on lui doit à ce groupe un total respect pour que tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer, nous, des tensions. Et que le seul moment où on pourrait créer une tension, c'est en cas de danger. Et c'est là où il faut qu'on intervienne. Et ça, moi, on ne me l'a jamais dit en cursus de direction de cœur. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette formation. Je n'ai jamais exercé derrière. Mais par contre, j'y ai compris et les tenants et les aboutissants de la gestion de groupe, du référent à la personne supérieure. Alors, dans l'avion, c'est le commandant de bord ou le chef de cabine principal. Mais nous, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai un directeur musical auquel je rends des comptes en disant, ben voilà, oui, on est prêt. Oui, on peut monter une demi-heure de musique ou au contraire, non. Ou on a telle durée, mais on a telle et telle difficulté. Donc ça, on se doit de pouvoir rendre des comptes quand on est chef assistant au niveau du chef principal. Et c'est vraiment, pour moi, le corps de notre métier. Même risque ensemble et on veut aller ensemble du point A au point B. Donc, les risques en chœur sont un tout petit peu moins grands que... Je suis bien consciente que je prends beaucoup moins de risques en conduisant un chœur qu'en conduisant un avion, évidemment. Mais voilà, il y a un sketch très célèbre qui s'appelle « Le permis de conduire un orchestre ». Les parallèles entre la conduite et le fait de diriger un chœur, un orchestre, sont faits régulièrement. Mais ça reste tout à fait réel, c'est-à-dire qu'on emmène des humains vers un autre projet, vers une autre destination. Et on en sort différent. On rentre dans le projet, on est quelqu'un, mais quand on en sort, on est toujours quelqu'un d'autre.
Oui, c'est donc une semaine très intense. Et
toujours.
Est-ce que c'est enregistré aussi ?
Alors, il y a des chanteurs qui enregistrent parce qu'ils sont extrêmement attachés à l'idée de garder un souvenir. Moi, je sais que je ne suis pas forcément très attachée à l'enregistrement lui-même. C'est-à-dire que je garde des très beaux souvenirs, des très belles images sonores de ce qu'on a pu faire et je conserve des atmosphères et des ressentis plus. Mais je sais qu'il y a des traces, effectivement, de certains enregistrements.
Et qu'est-ce que vous voudriez qu'on partage à la suite de ce entretien ?
Je pense que ça peut être intéressant de mettre en regard deux types de prestations, c'est-à-dire celle de la semaine dernière et celle de cette semaine, qui ne vont pas du tout être les mêmes, qui montrent aussi qu'on aborde un répertoire très large. Il faut voir que le répertoire du chant choral, on a toujours chanté, et je pense qu'on chantera toujours. Donc on a des siècles et des siècles de musique. Alors, évidemment, on ne parcourt pas forcément tous les siècles ici. Il y a quand même un attrait principalement pour la musique romantique ici. Cette année, on aura fait uniquement de la musique contemporaine, ou presque uniquement, puisque la semaine dernière, on a travaillé sur des mélodies islandaises et suédoises. Donc certaines arrivent du XVIIe siècle, mais les harmonisations sont quand même de début XXe. On a travaillé sur de la musique de Poulenc. C'était un peu, dans mon idée, c'était la cantate Un soir de neige. Dans l'idée aussi, on est en 2024, de continuer les commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, c'est une cantate écrite sur un texte de Paul Éluard, que Paul Éluard, son texte, il l'a diffusé un peu discrètement pendant la guerre. Poulenc a trouvé ce texte-là dans sa boîte aux lettres, l'a trouvé magnifique, et a écrit sa musique en se disant peut-être qu'elle ne sera jamais diffusée si la France était restée sous domination allemande. Je pense que la musique de Poulenc ne serait jamais sortie. Et puis à la Libération, il l'a fait publier. Donc cette cantate à soir de neige, elle a une saveur très particulière cette année, je trouve. Et à l'inverse, la musique de cette semaine est beaucoup plus légère d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est sur des aphorismes, notamment de Whittaker avec Animal Crackers, qui sont des pièces très courtes sur des animaux. On a la panthère, la vache, la libellule. Ça dure peut-être 35-40 secondes pour certaines pièces, et c'est des petits éclairs de blagues presque. Les textes sont des jeux de mots, enfin, c'est une musique totalement différente. Donc, voilà, à l'Académie Opus 74, on peut à la fois faire de la musique très sérieuse, à la fois de la musique plus légère. On a chanté le Requiem de Mozart, on a chanté celui de Fauré, on a chanté des messes. On a vraiment, depuis, moi ça fait 6 ou 7 ans que je suis là, parcouru un répertoire très large. Et c'est la chance du chant choral, c'est de pouvoir aller depuis le 9e siècle, le grégorien, jusqu'aux créations. La semaine dernière, on a fait une création, enfin une création, non, c'est pas une création, mais presque, une musique éphémère d'un certain Johnson, qui est un Suédois, sur une mélodie qui s'appelle UT for Hag. Et c'est une musique qui est créée à chaque fois qu'elle va être faite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'a répétée, elle a été autre chose que la prestation qui a été le vendredi soir, puisque c'est une musique où le chef donne quelques indications, mais c'est le chanteur qui est libre de faire ce qu'il veut.
Très beau.
Voilà. Donc c'est aussi notre rôle d'amener ces chanteurs amateurs qui ne sont pas habitués à ça, à improviser, à oser aller chercher au fond d'eux-mêmes des propositions musicales. Dès la réunion de début de stage, j'ai entendu parler de cette pièce-là qui s'appelle Choir Collage, donc un collage de chœur, littéralement. Et les gens étaient un peu perplexes parce qu'il n'y a presque rien sur la partition, quelques mots seulement. Et ils sont laissés libres de certaines initiatives que l'on cadre évidemment, hein. Mais ça les avait vraiment perturbés, et certains étaient inquiets de ne pas savoir la partition, de ne pas avoir travaillé, mais c'était bien la seule partition qui ne pouvait pas l'être de toute façon. Plein de pièces de ce type là et je pense que Johnson, dans son écriture, c'est peut-être Johnson en suédois d'ailleurs, il connaît cette mélodie de UT for Hag qui est hyper connue, qui est une espèce d'hymne pour les Suédois, et il se dit mais je vais un peu le modifier, le recréer, le faire vivre différemment, lui donner une autre opportunité de vie. Et c'est assez intéressant d'avoir son regard à lui en tant que Suédois sur cette pièce.
Super. Voilà. Dernière question. Vous parliez tout à l'heure de l'image sonore. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce que ça veut dire l'image sonore pour une chef de chœur ?
Alors, c'est vrai que le son est quelque chose d'assez impalpable. Et c'est pas forcément évident de réussir à définir les choses. Or, on travaille énormément avec le visuel. Et c'est ce qui passe très bien, notamment du point de vue de la technique vocale. Et quand je dirige de la musique, j'ai une sorte de, on pourrait presque dire, de sculpture intérieure dans la tête qui répartit les voix quand elles rentrent, donnent leur matière sonore, elles sont plus ou moins d'épaisseur. On parle presque, ouais, on utilise le langage des arts plastiques pour travailler le son. Au même titre qu'un sculpteur pourrait travailler la pierre, nous on sculpte le son de la même manière. Donc on utilise vraiment ce vocabulaire-là. Alors, certains sont allés très loin, hein, type Messiaen qui va donner des couleurs à chaque accord, qui parle d'accords orange, violet, rose. Alors on n'en est peut-être pas toujours là. Maintenant, malgré tout, on parle de couleurs chaudes, froides. On vient faire appel à la sensibilité afin que le son puisse se développer. Et c'est ce qui fait, je pense, que plus on fait référence au visuel, plus on obtient aussi. Parce que pareil, le moyen d'utiliser les cordes vocales, ça reste très très impalpable, quoi. Parce que les cordes vocales sont à l'intérieur du cou. Certaines personnes ne savent même pas exactement dans quel sens elles sont, comment elles fonctionnent. On travaille sur notre respiration, la remontée du diaphragme, on ne la contrôle pas totalement. Donc c'est compliqué de pouvoir agir directement dessus. Donc c'est vraiment... pas forcément cérébral, mais très lié à l'imaginaire, en tout cas. Et c'est ce qui est chouette, ça nous fait voyager, en fait, assez vite.
Merci beaucoup, Anne.
Avec grand plaisir.
se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.